music.
De toutes les matières, c'est la Watt qu'elle préfère.
Le grand soir.
Victoria Turian.
Un grand soir avec du charme, de la poésie et du violoncelle pour commencer en douceur et en beauté ses premières émissions de l'année. Bonne année au passage. Imaginez donc un homme qui marche sur un fil tendu entre les plaines infinies de l'Est et les rives bien ordonnées du lac Léman. Un homme dont la silhouette droite comme une portée semble porter en elle tout le poids et toute la lumière de la culture slave. Cet homme, c'est Sergueï Tcherkassov. Il n'est pas l'espion russe qui avait tenté d'infiltrer la Cour pénale internationale aux USA, même s'il porte le même nom. Il est violoncelliste, mais aussi chef de chœur, qui a appris que diriger, ce n'est pas donner des ordres, c'est insuffler un souffle commun. Et ce souffle, il l'a glissé dans ses bagages lorsqu'il a choisi la Suisse pour terre d'accueil. C'était il y a 34 ans. Notre invité a le sens du geste, de l'autre et d'une certaine mélancolie. C'est ainsi que nous pourrions qualifier également le maestro à la régie ce soir. J'ai nommé Thierry Galuchet. Bonsoir Sergueï Tcherkassov.
Bonsoir.
Est-ce que c'est une bonne prononciation déjà?
Oui, oui, tout à fait.
Oui, vous me corrigerez hein, si c'est faux, n'est-ce pas?
D'accord.
D'accord. Bienvenue dans ce grand soir. Comment allez-vous?
Très bien.
Vous n'êtes donc pas le Tcherkassov qui travaillait pour les services de renseignement russes sous l'alias brésilien de Victor Müller Ferreira. On vous l'a souvent faite celle-là. Vous avez le même nom qu'un espion.
Écoutez, je ne suis pas au courant.
D'accord.
Je suis entouré de dièses, de bémols, donc, mais pas...
Des bémols, mais pas ce genre-là.
Ouais.
Vous êtes violoncelliste, chef de chœur, formé au conservatoire de Saint-Pétersbourg, mais également...
De Moscou.
Vous étiez également à la tête d'une école de musique à Lausanne, et vous continuez à enseigner en privé. Dans l'enseignement, vous m'avez dit quelque chose de très intéressant ce matin. Vous parlez de l'imitation, qui est un support essentiel et important. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Je pense que l'imitation, c'est l'un des moyens pour dans la transmission de savoir. Par exemple, historiquement parlant, les légendes, les contes de fées, les contes pour les enfants étaient transmis oralement, on est d'accord?
Oui.
Traditionnellement. Et puis le chant, en tout cas en Russie, c'était le genre vocal assez courant, tout le monde chantait. Tant qu'il pouvait mal ou bien, mais tout le monde chantait.
C'est
tout le
plus
monde
important.
Connaît, je dirais, comment vous dire, le répertoire de base de la chanson populaire.
Mm-hmm.
Voilà, et puis tout petit, on était entraîné déjà dans le chant, et parfois, pendant telle ou telle fête, voilà, par imitation, apprenez le texte, ensuite la mélodie, et ensuite la justesse d'exécution. Puis parfois, même la voix qui n'était pas encore formée, tu étais jeune, quelqu'un parmi les adultes, il te tapotait le ventre et puis ses contractions pour faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire, les diaphragmes.
Mais ça c'est quoi? Vous m'avez expliqué ça ce matin, mais on te tapotait sur le ventre.
Oui, parce que ça donnait automatiquement une sorte de contraction.
Mm-hmm.
Et puis tu comprenais d'où venait le son.
Et vous, on vous a fait ça, donc ça y est.
Voilà. Et puis comme ça, tu imitais le bon chanteur qui était à côté.
Mm-hmm.
Et puis tu essayais d'imiter sa force, puis comprendre d'où ça vient, en fait. Parce que la voix, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient normalement de l'intérieur.
Mm-hmm.
Voilà.
Et vous, c'est qui que vous avez imité lorsque vous étiez enfant? C'était quel artiste?
D'abord mes voisins, ceux qui chantaient,
oui.
Vous comprenez. Par la suite, étant enfant, je me rappelle, j'adorais Robertino Loretti. Ça, c'était un Italien, jeune homme, de, je sais pas, 12 ans. Et puis, il y a certains de ses enregistrements, ils sont passés à l'Union soviétique. On était tout fous. Écoutez, c'est un jeune homme qui chantait avec sa voix de rossignol, je sais pas, mais j'étais époustouflé.
Vous vous souvenez d'un petit bout d'air comme ça?
Jamaïca.
Jamaïca.
Ouais, Jamaïca.
Bah tiens, pourquoi pas? Oui. On va pas aller jusqu'en Jamaïque, mais on va faire un petit bout de voyage avec vous, Sergueï Tcherkassov, jusqu'à 20h dans ce grand soir. Et puis on va parler musique, évidemment. Et Nadia Mitic nous propose d'ouvrir le bal avec une nouveauté signée Vanessa Paradis. Et je vous demanderai de tendre bien l'oreille, puisque ce retour des beaux jours orchestré par Étienne Dao, eh ben, je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, chers auditeurs, chères auditrices, je trouve qu'il y a quelque chose de l'esthétique et du groove de l'album sorti en 1992 et produit par Lenny Kravitz. Dans cette proposition ce soir, dans le grand soir, voici les épines du cœur. Du cœur dans ce grand soir, puisqu'en plus d'être violoncelliste, notre invité est aussi chef de chœur, on en parlera dans quelques instants. Sergueï Tcherkassov, les citations sur le violoncelle qui évoquent la voix profonde, émouvante, la capacité à toucher les sentiments directement, la fusion entre l'instrument et l'interprète, il en existe tout un tas. Il y a par exemple Yehudi Menuhin, le violoniste, qui disait « Le violoncelle touche nos sentiments à un niveau profond, insondable ». Vous, ça vous parle? C'est pour ça que vous avez choisi le violoncelle?
Ah non, non, non. J'ai pas choisi le violoncelle. Cette envie, elle ne vient pas de moi. C'est les circonstances de ma vie, de mon enfance qui ont amené que j'ai commencé à jouer cet instrument. Moi, je suis d'accord avec Yehudi Menuhin qui le dit, vu que tout le monde reconnaît que le timbre et puis la... Le diapason de cet instrument est le plus proche de la voix humaine.
Mmh. Oui, c'est ce qu'on dit.
C'est ce fait qui... c'est pourquoi cet instrument, il devient presque parlant.
Alors, c'est ce que dit un certain Gilbert Sébron. Je ne sais pas si vous le connaissez, vous qui lisez beaucoup. De violon, l'homme, en vieillissant, devient violoncelle, puis contrebasse, un corps épais, une voix grave et pas grand-chose à dire.
peut-être, il y a certaines philosophies là-dedans.
Oui.
C'est sympa.
Est-ce que donc c'est pas vous qui avez choisi le violoncelle?
On peut dire que c'est à mi-chemin.
Oui, vous êtes à mi-chemin. Oh, ça va, vous êtes encore un genou.
Voilà, donc c'est à mi-chemin.
Oui, à mi-chemin. Vous avez encore un long chemin, et de musicien, et d'être humain. Vous avez dit que c'est le violoncelle qui est venu à vous. Vous pouvez nous raconter?
Vous savez, à l'âge de 7 ans, je suis arrivé dans la ville de Yaroslavl. Mm-hmm. Et j'étais placé, étant orphelin, j'étais placé dans un orphelinat où il y avait l'école de musique. Et Nikolaï Stepanovitch, mon premier professeur de violoncelle, il est venu jouer dans un cours avec mes copains au foot. Et il est venu, il m'a appelé vers lui. Mm-hmm. Il m'a demandé de montrer mes mains. J'ai montré mes mains. Visiblement, il a trouvé quelque chose d'intéressant. Puis il dit, viens avec moi. Puis on est monté au premier étage dans notre école de musique. Il a ouvert un grand armoire rempli d'instruments que je n'ai jamais vus. Il a sorti un petit instrument qui m'a, d'après sa forme, m'a fait penser à une femme. Et il a commencé à jouer. Il a commencé à jouer, et puis par la suite, il m'a demandé « Est-ce que ça te plaît ?» Je dis « Mais c'est impressionnant, je n'ai jamais vu, c'est exotique, cette forme, puis cet instrument. » Il dit « Viens ici. » Alors, j'ai pris la place sur la chaise, j'ai pris cet instrument, il m'a donné l'archet, puis j'ai tout de suite tiré
le correctement. Son. Ouais, correctement. Il y a un son qui est venu du premier
puis,
coup.
Oui. Et puis c'est ça qui m'a peut-être, dans certaines mesures, curiosité. Qu'est-ce que c'est cet instrument? Parce que moi, étant petit, tout le monde voulait jouer accordéon plutôt, mm-hmm. pour accompagner ces chansons populaires.
Mais... Et quelque chose de plus, sociable, voilà, facile à emporter également.
C'est-à-dire, mais c'était une idée courante, mm-hmm. De jouer accordéon. Tandis qu'ici, c'était peut-être curiosité, mais comment de cet instrument on peut tirer le son qui est tout à fait sympa, intéressant, touchant, velouteux, vous voyez, et puis qui me rappelle, d'après sa forme, je sais pas, un être humain,
ouais,
vous voyez.
Une femme, donc, voilà, vous l'avez dit tout à l'heure.
Une femme. Et alors j'étais subjugué, et puis je dis oui, pourquoi pas, mm-hmm. pourquoi pas, et puis comme ça, on a commencé... notre apprentissage de cet instrument.
Mais ça fait plus de 50 ans que ça dure, désormais.
Mais voilà, on peut dire toute ma vie.
Ouais. Mais vous faites aussi du piano?
Oui, un petit peu moins.
Un petit peu moins.
C'était pendant mes études à l'école professionnelle, et puis plus tard au conservatoire, c'était l'instrument obligatoire.
Pour la composition?
Obligatoire, mmh. Pour déjà déchiffrer l'accompagnement de sonates, des concertos, etc. Mmh. Mais c'était un instrument secondaire, plutôt.
Alors, votre instrument principal, donc, le violoncelle, on aimerait bien vous entendre. Alors, on ne vous a pas demandé de prendre un violoncelle avec vous, hein. C'est que c'est pas très facile à transporter. Mais on peut trouver sur YouTube quelques-unes de vos interprétations. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que vous parlez justement de cet instrument qui ressemble à un être humain et à une femme. Et... quand on va sur YouTube, il y a plusieurs photos de vous, en fait, et puis il y a un effet comme ça, dans l'ombre, on voit votre tête qui est sur l'instrument, et on dirait qu'en effet, vous avez un corps de violoncelle. C'était voulu? C'est une petite tête qui serait la prolongation de votre corps, le violoncelle. C'était pas voulu.
Je sais pas, vous donnez une image très aérée et un peu... Je ne sais pas qu'est-ce que... C'est la prolongation de, peut-être, de ma vie intérieure, l'instrument. Thank you.
Sergueï Tcherkassov, vous avez choisi de nous faire écouter la suite numéro 5 en ré mineur de Bach. Est-ce que c'est juste qu'on dise comme ça en c'est
en faux. Do mineur.
Ah oh, voilà, j'étais sûre que j'allais encore me planter. Je crois que c'était en G. Non, voilà, je l'avais lu en anglais. Non, c'était faux. En Do mineur. Pourquoi ce morceau-là?
Je ne sais pas. Pas parce qu'il y a certaines gaietés. Mm-hmm. Vous voyez, c'est d'un côté c'est une danse, mais ce que j'apprécie particulièrement dans la musique de Bach, c'est il te laisse toujours beaucoup de place pour la réflexion, pour peut-être superposition de sa musique sur ta vie personnelle, sur la réflexion, sur le monde qui t'entoure. Bref, ça te permet peut-être organiser ton spiritum. Mmh.
Est-ce que vous vous souvenez précisément de l'état émotionnel dans lequel vous étiez lorsque vous avez joué et enregistré cette suite?
Oh, comment vous dire? Vous savez, quand vous enregistrez dans un temple, dans une église où il fait 7-8 degrés, sans chauffage, ouais, pendant 10 heures, vous pouvez imaginer votre état.
Oui. Oui, alors ça.
Mais sur le moment, tu oublies tous ces inconvénients et puis tu essaies juste de rester concentré sur ton état émotionnel intérieur. Et puis, parce que tu as envie quand même de transmettre ce que tu as déjà composé intérieurement dans ta tête, dans ta tête, et ensuite tu dois enregistrer pour transmettre tes émotions à ton public futur.
Lorsque vous écoutez d'autres musiciens, d'autres violoncellistes, Sergueï Tcherkassov, est-ce que vous arrivez à dire dans quel état émotionnel ils sont?
Je pense, oui, je peux capter, mais je le garde pour moi.
Il y a un moment dans cette émission où on vous tire le portrait. Alors pour les auditrices et les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore ou qui arrivent maintenant, le voici, le voilà. Comme dirait Omar Khayyam ou Rayam, je ne sais pas.
Rayam,
le poète iranien que vous semblez apprécier puisque je l'ai vu dépasser de votre bibliothèque sur une photo que vous nous avez envoyée pour l'émission ce soir. Je l'ai vu, j'ai fait un zoom, j'ai vu qu'il y avait Omar Khayyam.
Oui, c'est juste.
Oui.
Parce que j'ai trouvé chez les antiquaires la version en français.
Des
parce
quatrains.
Que tout au début, oui. Parce qu'au début, en Russie, j'ai lu en traduction en russe. Donc ça, c'était mes premières lectures. Et puis, on adorait, surtout avec mon copain, dans le foyer d'étudiants à Moscou. On était fous de ces quatrains. Et puis, même, je prenais une plume et puis j'écrivais certaines quatrains sur le mur de notre chambre.
Oh, oui. Il y en a un qui vous revient comme ça?
Oh non, je ne peux pas maintenant me souvenir.
Est-ce que ce serait peut-être « Sois heureux un instant, cet instant, c'est ta vie ». C'est du Omar Khayyam.
Mais il dit beaucoup de choses,
oui,
simples et puis véridiques. Mais il y a beaucoup de sagesse, ouais, dans ces poésies.
Cette vie, en tout cas la vôtre, débute le 10 mai 1963 à Moscou. Vous grandissez donc, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, dans un orphelinat où il y a une école de musique et y recevez vos premières instructions dans des conditions assez particulières. Est-ce que vous vous souvenez du nom de ce professeur qui vous a dit « Tiens, montre tes mains ». Pourquoi tu ne ferais pas du violoncelle? Vous vous souvenez de lui?
Bien sûr, parce que jusqu'à la fin de sa vie, on restait en contact. Mm-hmm. Comment vous dire? Il était le premier violoncelliste dans un orchestre symphonique de la ville de Yaroslavl. Et puis sa femme, elle était directrice de notre orphelinat.
Wow.
Donc on entretenait notre amitié, même après mes études à l'orphelinat, à l'école, puis ensuite à l'école professionnelle de Yaroslavl pendant 4 ans. Et puis ensuite, quand je suis rentré au conservatoire de Moscou, notre amitié, elle continuait. Elle me rencontrait chaque fois en disant, en russe, ça se dit « Ah, votre Serёжа, на тебя одна надёжа ». En français, on peut traduire « Serёжа, Serёжа, c'est sur toi qu'on compte ». Dans la vie.
On peut traduire c'est Sergueï.
Comme ça. Oui, Sergueï.
Comment vous l'avez dit?
Et Serioja, c'est diminutif de
Serioja.
Sergueï. Oui, Serioja.
Oh, c'est joli.
Ouais.
Est-ce que je pourrais continuer l'émission en vous appelant Serioja?
Oui.
Si je m'en
je
souviens.
Je vous en prie.
Pourquoi les Russes chantent toujours? Je me suis posé la question. Vous avez dit ça aussi au début de l'émission.
Je pense que le chant, en soi, c'est une très très bon échappatoire.
À la fois ça rassemble.
Oui, c'est juste, vous voyez, la pauvreté, elle réunit des gens. Le chant, il réunit des gens pour apaiser leur souffrance, leur pauvreté. Donc le chant, il a quelque chose de même médical en soi. Il soigne
les âmes.
Vous voyez. Et ça, avec l'âge, je comprends beaucoup mieux cette notion de cette chose. Chanter, en chantant, on peut rallonger la vie. Et puis, je suis témoin moi-même de ce phénomène, parce que à plusieurs chanteurs dans mes sociétés chorales ici en Suisse, on peut dire que j'ai permis de rallonger leur vie à travers les gens. Parce que je voulais toujours qu'ils continuent à venir dans la société, dans le chœur, dans le chorale.
Oui, parce que vous êtes directeur de chœur également.
Oui. Et puis l'une des tâches de bon directeur, à mon point de vue, c'est aussi le contact humain avec ces chanteurs, il faut les connaître personnellement et si c'est possible tous.
Et puis c'est vrai que lorsqu'on chante, enfin j'imagine encore plus lorsqu'on dirige un chœur, mais lorsqu'on chante dans un chœur, on est aussi obligé de tendre l'oreille, d'être respectueux de l'autre, de faire en sorte que sa voix amène quelque chose pour le tout et pas juste pour soi-même. Donc c'est vrai que c'est assez fort de voir tout ça.
Le rôle, vous voyez, c'est comme dans les sciences, je pense, on parle souvent de synthèse. Il y a analyse ou bien synthèse. Mm-hmm. Le chef de chœur, il doit connaître tous les éléments dont il possède pour composer quelque chose. Quand tu travailles une œuvre de tel ou tel compositeur, sous la main, tu as des chanteurs qui sont de différents niveaux vocaux. Mm-hmm. Vous comprenez ? Et puis ton rôle, c'est faire quelque chose avec ce matériel.
D'harmonieux.
D'harmonieux.
Si possible.
Qui soit intéressant, écoutable, et puis etc. Mm-hmm. Donc, je dois évidemment connaître psychologie de chaque chanteur que je dirige. Et en fonction de ça, entre autres, donc je dois composer une œuvre pour capter. Mais le rôle, vous comprenez, le chef de chœur, il doit être convaincant dans mmh. son métier, parce qu'il doit réunir le nombre X de voix que tous les chanteurs croient, et vraiment, pas seulement croire éphémèrement, non, mmh. mais ils
et
croient ce que tu veux, soyez convaincu
oui.
ce que vous allez faire. Mmh. Voilà.
À 7 ans, Sergueï, vous rencontrez un grand corps de bois verni qui va décider de votre destin, le violoncelle. Ce n'est pas une rencontre, c'est comme un pacte, direction le conservatoire de Moscou. Entre les murs froids de l'institution, il s'imprègne du souffle de Piatigorsky ou d'une certaine Maria. Alors, Serioja, vous reconnaissez Maria Greenberg, qui interprète Schumann?
Oui. Vous savez, c'est, je ne connaissais pas du tout à l'époque, mais ça tombe dans mes souvenirs. À présent, je vois Maria Greenberg, c'était le pianiste très très connu à l'Union soviétique. Et puis, c'est, à l'époque, on avait les tourne-disques en vinyle. Mm-hmm. Et puis, mais plutôt, j'ai écouté dans ces enregistrements avec les sonates de Beethoven.
Ah, d'accord. Donc, ça vous a mis le
c'est
doute
pourquoi,
que ce soit Schumann.
Oui.
Mais c'est parce
c'est
que j'aime
ça.
Beaucoup Schumann.
Eh bien.
Et pensez à moi.
Voilà. Dans mes souvenirs, oui. c'était plutôt ces enregistrements de Beethoven.
Ouais. Ouais. C'est une légende, hein, parmi les pianistes soviétiques. Elle a,
oui.
elle a malheureusement jamais été autorisée à jouer au-delà du rideau de fer. Mais c'est vrai qu'elle a marqué, les publics qui ont eu le privilège d'assister à ses concerts. Est-ce que vous l'avez vue en concert?
Non, non, non.
Non.
Non, non.
Non. À l'époque, Sergueï Tcherkassov gratouille aussi un petit peu la guitare, comme tout adolescent qui se respecte. Et pour être tout à fait honnête, c'est aussi pour draguer les filles. Comme une évidence, les Beatles ne sont pas très loin. You don't realize how much I need you. Love you all the time, I never leave you. Please come on back to me. I'm lonely as can be. I need you. Said you had a thing or two to tell me. How was I to know you would upset me? I didn't realize as I looked in your eyes, you told me, oh yes, you told me, you don't want my loving anymore. I Need You par les Beatles est surtout écrite par George Harrison. Les Beatles, Sergueï Tcherkassov ou Serioja. Sergio Orgia. C'est un des seuls groupes que vous pouviez écouter à Moscou, enfin qui passait la censure.
Peut-être c'est pas seul, mais en tout cas c'est dans mes souvenirs c'est l'un des groupes qui m'a resté presque à vie. Parce qu'il est vrai, c'est le groupe qui a passé toutes les censures, et puis c'était donc à la portée de large public. Et puis c'était les premiers vinyles avec une ou bien voire deux maximum chansons qu'on achetait dans les magasins.
Et 45 tours.
Voilà, oui, c'est ça. Mm-hmm. Et puis parfois, dans notre orphelinat, on devenait déjà 12, 13 ans, déjà avec... certains voiles d'intérêt vis-à-vis de genres opposés. Donc, on organisait les soirées dansant.
Des booms, quoi.
Oui, non, mais on était plus, comment...
C'était
plus modeste, voilà. Les booms, c'est aujourd'hui, on dit.
Oh, mais on dit même plus comme ça, hein, je crois.
Mais c'était, voilà, donc on dansait... Et puis évidemment, on mettait le vinyle de Beatles et puis on se défoulait comme
ça. Ouais, donc vous dansiez sur de la pop anglaise. Et puis, à 17 ans, vous obteniez un prix d'interprétation du concours national de jeunes musiciens, c'est ça ?
Oui.
C'est pas rien quand même.
Mais je ne sais pas. Vous savez, pour être honnête, la musique et puis. Véritablement, est devenu ma profession à partir du moment quand je suis entré au conservatoire de Moscou.
Ça, c'est en 82.
J'étais doué dans différents domaines. Et puis, tous ces domaines, pour moi, étaient plutôt hobby que la profession. Parce que je faisais de bonnes études. J'ai fini l'école obligatoire avec de très très bonnes notes.
Vous aviez plein de possibilités, c'est ça ?
J'avais beaucoup de possibilités pour continuer. Je faisais du sport, pas mal le foot, hockey, basketball, tous les jeux d'équipe. Et en musique, ça allait très très bien, mais c'était plutôt hobby. Hein, vous voyez.
Ah oui.
Un petit peu de guitare, un petit peu de chant. Donc c'est un petit peu l'homme à tout faire.
Oui, d'un multi-instrumentiste. Côté.
Et puis choisir ma future profession, c'était pas évident. À l'âge de 14 ans, il fallait déjà réfléchir. Qu'est-ce que tu vas faire, Tcherkassov, remuer un petit peu tes ménages. Et puis voilà. Et puis en fait, de nouveau, c'est mon premier prof, Nicolas Stepanovich Vinokourov, qui m'a pris par la main. Et puis il m'a envoyé à l'école professionnelle de musique. J'ai fait ces 4 ans et même après ces 4 ans et avec ce prix d'interprétation, vu que j'ai terminé cette école professionnelle aussi avec ce qu'on appelle le diplôme rouge, c'est-à-dire avec plus de 75% de meilleures notes, ce qui m'a donné le droit d'envoyer mon dossier au conservatoire à Moscou, où je suis entré plus tard.
Et là, les années du conservatoire, c'est des années qui semblent avoir été assez... Vous bossiez, mais vous faisiez aussi la fête.
Non, c'était...
Pas du tout ?
Plutôt, au moyen, c'était entre 6 et 8 heures par jour.
Mais il y avait quand même Stevie Wonder. Mais il parlait de Stevie Wonder.
Mais c'est parce qu'il y avait les soirées, aussi les balles, je ne sais pas, il y avait les soirées pour divers fêtes. Voilà, donc c'était une distraction, entre autres. Et puis nous, on adorait Stevie Wonder, oui.
Vous savez chanter, vous savez jouer du violoncelle, vous savez diriger un chœur, vous composez aussi au piano. Est-ce que vous dansez ? sur Stevie Wonder, Sergueï Tcherkassov?
Mais bien sûr, mais bon, c'était les danses un peu, vous savez.
Non.
Je ne peux pas appeler la danse.
C'était du défoulement.
Voilà, oui, c'est ça, plutôt.
En 89, vous obtenez votre diplôme de virtuosité. Vous travaillez en qualité de premier violoncelliste dans divers orchestres de chambre moscovite. Et puis, il départ pour la Suisse en 92. Aujourd'hui, Sergueï Tcherkassov, quand vous ne dirigez pas le chœur d'homme de Martigny ou que vous n'enseignez pas le violoncelle ou le piano, vous vous entourez de silence, ou plutôt de papier et de bois. Vous avez une bibliothèque qui compte 4000 ouvrages. Et parmi eux, Farinet de Ramu, le premier livre que vous avez lu en entier, en français, sur les conseils de votre beau-père, un russe qui découvre l'âme valaisanne à travers la plume de Ramu. C'est beau, hein, c'est un beau mélange de culture.
Mais je suis ravi, mais le premier pas pour avaler tout un livre en entier, c'était une grande victoire. Dans ma formation, dans mon apprentissage du français, vous savez, c'est sur le conseil de mon beau-père que j'ai lu ce livre. Il m'a dit, c'est à la portée de tes capacités, vas-y. Et puis, je me suis lancé. Mais bon, après avoir tourné la dernière page, j'avais tel mot de tête que je pensais que j'allais me retrouver au chiouve avec, au soin intensif, tellement j'avais mal à la tête. Mais après coup, ça m'a permis quand même bien, bien avancer.
Vous avez continué à lire d'autres auteurs, d'autres autrices suisses?
Oui, mais aujourd'hui, pratiquement toute ma bibliothèque, elle est composée de livres en français.
Ouais.
Oui, c'est juste, oui. J'aime beaucoup Agota Christophe, mais elle est hongroise, je crois, d'origine. Mais elle vit en Suisse, elle est à Neuchâtel, je crois.
Oh, je ne sais pas.
Voilà. Mais le Grand Cahier, c'est son livre, par exemple. Mais j'admire, le plus que j'aime, c'est Robert Walser.
Ah oui, ça voilà. Je connais.
Voilà, donc Robert Walser, ça c'est pour moi, c'est le extraordinaire comme...
Et les mélanges, vous continuez à les faire, hein, vous continuez de les pratiquer. S'il devait nous glisser un nom à l'oreille, puisque c'est par rapport à votre aux réponses que vous avez données, ce serait celui du compositeur lausannois Valentin Villard ou celui d'un certain Yves Moulin, un virtuose de l'accordéon avec qui vous préparez un programme. Et vous souriez, hein, Sergueï Tcherkassov, c'est un ami à vous, Yves Moulin?
Je ne peux pas dire que c'est mon ami, mais nous avons fait récemment la connaissance, il y a quelques mois, parce qu'avec le chœur d'homme de Martigny, nous sommes en train de préparer la soirée annuelle, justement avec Yves, qui va nous accompagner dans notre programmation.
Yves Moulin, donc qu'on entendait ici à l'accordéon, l'accordéon qui aurait pu être aussi votre instrument de base.
Eh bien voilà, le retour vers mes,
exactement.
Vers mes souvenirs d'enfance.
Le portrait d'un homme qui, d'un coup d'archet ou d'un rabot, puisque vous aimez aussi beaucoup construire des meubles.
Oui.
Hein, il faut bien les mettre quelque part, ces livres. Donc vous faites des bibliothèques.
Oui, j'ai fait quelques bibliothèques pour moi, pour mes amis, pour mes connaissances, oui.
Vous continuez toujours de chercher la note juste et d'une certaine idée de la beauté aussi. Une beauté qui demande du travail, du respect et surtout une immense humanité. Car pour Sergueï Tcherkassov, faire chanter les autres, c'est sans doute la plus belle façon de les faire se rencontrer. Je vous souhaite la bienvenue, en tout cas dans ce grand soir.
ce soir au bar de la gare. Igor Agar est noir, il n'arrête guère de boire. Car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter. Sa Katia l'a quitté, il a fait chou blanc, ce grand duc, avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de russe blanc. Ma tactique était top, dit Igor qui s'endort, ivre mort au comptoir du bar. Un russe blanc qui est noir, quel bizarre hasard se marre, l'effet tarpaillard du bar. Car encore Igor, il dort, mépris de son oreille, merveille, un réveil vermeil, lui prodigue des conseils pendant son sommeil. Tic-tac, tic-tac, tac-a-ti-ta-ti-té, tic-tac, tic-tac, tac-a-ti-ta-ki-té, tic-tac, tic-tac, tes cocu qu'attends-tu, cuite-toi tes cocu, tac-a-tac-a-tuité, et quitte ton quartier, tac-a-ti-ta-ki-té, ta tactique était top, ta tactique était top, tac-a-ti-ta-ki-té, rote ta toque et troc, ton tricot tout crotté, et ta croûte au couteau, on t'attend t'attaquer, contre ta cocoté, quatre équipes pour compter, et quitte ton quartier, tac-a-ti-ta-ki-té. Côté des catins, des catitas, qui n'est un coquère, coquin, et des diques coquettes, tout en tricotant, caqueté, t'es discuté, t'es critiqué, t'en compte toqué, qui comptait tantiquant, tout un tas de tickets, de quais, quand tout à coup, tic-tac, tic. Oh, matin, quel réveil, matin, quel réveil, matin, s'écrie le russe blanc de peur. Pour une sonnerie, c'est une belle sonnerie.
Bobby Lapointe, il a fait chou blanc avec ses tactiques de russe blanc. Sa tactique était toc, dit Igor, qui s'endort ivre mort au comptoir du bar. C'était pour terminer votre portrait, Sergueï Tcherkassov. Vous aimez bien aussi Bobby Lapointe?
Oui, je le connais du nom. Du nom, oui.
Vous êtes notre invité dans ce grand soir jusqu'à 20h. Le temps passe rudement vite en votre compagnie. Vous êtes violoncelliste, mais actuellement aussi chef de chœur. Vous dirigez trois sociétés chorales, la Lyre de Moudon, le Chœur d'Homme de Martigny et le Chœur du Léman à Coppet. Et je vous propose d'entendre, puisque vous avez bien parlé justement de l'importance du chef de chœur, un extrait de... Vous dirigez la chapelle vocale de la Philharmonie de Yaroslav, en Russie. Vous y aviez été invité, c'était en 2009. De venir après ça. Est-ce que vous pouvez juste nous dire deux, trois mots? J'aimerais que vous me parliez du geste du chef d'orchestre. Comme ce monsieur, lorsque vous aviez 7 ans, vous a demandé de montrer vos mains et vous a dit, ben tiens, tu pourrais peut-être jouer du violoncelle. Comment... Il y a toute une grammaire du geste du chef de chœur. Comment est-ce qu'on l'apprend, cette précision quasi mathématique?
Je ne peux pas aller jusque-là, mais disons, je suis autodidacte comme chef de chœur, je dois vous avouer. Vous savez, mais je pense mon gestuel, il est guidé par la demande musicale, de la musique. C'est la prolongation. Je dois être explicite dans mon gestuel, que tous les chanteurs, ils comprennent ce que je veux dire à travers la pièce qu'on présente.
Donc c'est le geste, mais c'est aussi le regard.
Oui, tous les éléments, tous les composants de mon dans ce métier, ils doivent être suffisamment explicites à la portée de monsieur tout le monde, de tous les chanteurs, que ce soit clair. Voilà. Et c'est à partir de là, pour, en tout cas pour moi, c'est la musique qui guide mon geste. Voilà.
C'est la musique qui guide beaucoup de choses, d'ailleurs, dans votre vie, d'une manière générale.
Elle aide. Comme accompagnateur dans la vie, il est sympa.
C'est vrai. Et d'ailleurs, vous-même, vous êtes aussi une sorte d'accompagnateur parce que, en plus d'être violoncelliste, chef de chœur, d'avoir géré cette école de musique, de continuer à donner des cours de musique, vous vouliez nous parler d'une rencontre particulière que vous aviez faite avec un tout jeune musicien. Il s'agit de Justus Friedrich Eichhorn, une espèce de petit virtuose magnifique, incroyable. De le voir d'ailleurs jouer, c'est très très beau. Il a l'air d'être totalement habité, d'avoir énormément de plaisir en fait. Comment est-ce que vous l'avez rencontré ?
Je l'avais rencontré tout à fait par hasard. Il avait encore 14 ans, donc il vient d'avoir 16 ans, mais il est encore donc très jeune musicien, très talentueux. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de musiciens et puis d'artistes qui créent leur compte sur les réseaux sociaux. Moi-même, je n'ai pas réussi à échapper à cette bactérie. J'ai mon compte sur Instagram. Et puis un jour, quand je consultais mon compte, je suis tombé tout à fait par hasard sur un petit vidéo où jeune pianiste il jouait un prélude en do mineur de Bach. Et puis, ce vidéo, il était heureusement en noir et blanc. Et puis, ça m'a interpellé, j'ai écouté, j'ai beaucoup aimé. Et puis, tiens, il m'a proposé deuxième version, mais en staccato. Et j'étais impressionné tout de suite par sa façon de se comporter d'un côté avec l'instrument, ce comportement qui m'a capté. Et puis ensuite, j'ai repéré, c'est comme quand il jouait, on dirait il s'observait de l'extérieur tout en jouant, observait sa création, ce qu'il crée avec ses notes. Et puis je dis, mais tiens, mais ça me rappelle, c'est purement l'école russe. Et puis, beaucoup plus tard, j'ai appris que son professeur actuel, c'est Grigori Grutzmann, qui a fait ses études à Saint-Pétersbourg, au conservatoire. Vous voyez, donc il y avait une sorte de fluide qui a passé, et puis j'ai tout de suite capté. Et puis, par la suite, j'ai trouvé son compte sur Instagram, et je dis, c'est intéressant, c'est qui ce jeune homme ? Et puis je regardais un petit peu tous ces enregistrements, etc. Mais dès que j'ai entendu un enregistrement de concerto de Haydn en ré majeur, j'étais vraiment ébloui. Je dis, mais tiens, mais Tcherkassov, tu dois faire quelque chose avec toute cette découverte. Et puis j'ai contacté l'un de mes amis, aujourd'hui c'est un grand pianiste mondialement connu. Je dis, est-ce que tu connais ce jeune homme? Il m'a répondu oui, mais j'ai écouté aussi son Haydn. Il joue très bien. Je ne sais pas comment il joue aujourd'hui, mais quand il avait ses 10 ans, donc c'était très très bien.
Thank you.
Justus Friedrich Eichhorn. Il avait 10 ans lorsqu'il interprétait ce concerto de Haydn en ré majeur. C'est vrai que c'est complètement incroyable. Il vient d'un autre temps, ce jeune garçon.
Oui, mais quand je l'écoute ou je regarde ses vidéos, c'est une idée que... C'est une idée qui me vient dans ma tête. On dirait il a le goût inné, le style. Je dois dire, il faut visiter la ville de Weimar en Allemagne pour comprendre mieux toute cette atmosphère qui est bénéfique pour la formation de jeunes musiciens.
Il vient de là-bas, le jeune Justus Friedrich. Ouais, oui. Il sera en concert d'ailleurs le 8 février prochain à 17h à la salle Paderewski à Lausanne. Vous y serez.
Oui, c'est juste. Mais c'est moi qui organise ce concert.
Très bien, donc, alors évidemment. Oui. C'est 1h30 de concert.
Je ne sais pas combien de temps, parce que j'attends son programme définitif pour être sûr au niveau de timing.
Quel conseil peut-on donner aux auditeurs en 3 secondes? Chanter fait de la musique, donnons une arme de résistance contre le chaos du dehors. Oui.
En tout cas, faites de la musique.
Oui, exactement.
Faites de la musique, c'est le meilleur remède pour tous les maux.
Merci beaucoup Sergueï Tcherkassov. On arrive déjà au bout de cette émission. Un grand merci également à Nadia Mitic à la programmation musicale. Thierry Galechet aux manettes ce soir. J'ai chauffé le siège du studio pour le laisser à Stéphane Thiébaut qui vous retrouve après les infos pour sa nouvelle émission.
L'heure avec les logiciels Crésus, facturation, salaire et comptabilité, crésus.ch.
Juste mesure après les infos. Excellente soirée sur RTL.